Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put it in other banks?
No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Ciambrulli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl, can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, nouvelle édition de cette émission qui vous parle série télévisée. 14e épisode de la saison 6, déjà avec l'ami Aurore qui est présente avec moi en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
On parle série télévisée, on abordera un sujet du jour après avoir passé un petit peu de temps en ta compagnie à écouter un peu tes critiques sur des séries que tu as pu visionner pour nous ces derniers jours et une fois n'est pas coutume, tu ne parleras pas de nouveautés.
Non, j'ai pas encore de nouveautés à proposer, j'en ai commencé quelques-unes. Il y en a certaines que j'ai déjà abandonnées et du coup, principe selon lequel je ne parle que de ce que j'ai aimé oblige, je n'en parlerai pas. Et par contre, les autres, je me laisse le temps d'en voir un peu plus avant de pouvoir donner un avis peut-être un peu plus définitif. Donc voilà, ce qui fait que de toute façon, j'ai d'autres séries dont j'avais envie de parler, ça tombe bien. Deux en particulier aujourd'hui. La première, c'est la troisième et dernière saison de A Series of Unfortunate Events, donc là, les fameuses aventures des orphelins Baudelaire qui sont proposées sur Netflix depuis donc 3 ans, j'imagine, hein, 3 saisons, 3 ans, avec Neil Patrick Harris en comte Olaf, et puis un casting quand même. Ma foi, assez bien choisi. J'avais eu l'occasion de dire le bien que j'en avais pensé lors de la première saison, mais là, comme même ça vient de se clôturer, c'est le moment de faire un petit peu le bilan.
Alors, quand tu dis que ça se clôture, c'est vraiment fini ou on attend?
Oui, c'est fini.
Ah, d'accord.
Il y avait 7 épisodes pour cette 3e saison. Le tout dernier épisode étant vraiment un épisode de clôture pour une raison simple, c'est que cette série suivait une série de livres et il n'y a pas d'autres livres pour raconter la suite. Donc voilà, ça s'arrête là. Alors, je dois t'avouer que j'ai particulièrement aimé suivre cette saison 3, que sans doute en partie parce qu'il y avait l'idée que ça se terminait, hein. Donc il y avait peut-être déjà un peu de nostalgie à suivre le dénouement de la série. Moi, je connaissais pas du tout les livres, hein, donc c'était l'occasion de découvrir des aventures que j'ai trouvé vraiment super passionnante. Ça donne vraiment envie d'aller voir les livres. Ça donne l'impression d'être très fidèle, hein, mais c'est vrai que du coup, on a envie d'aller voir si ça l'est ou s'il y a des changements ou des nouveautés par rapport à la version papier. Donc, la seule chose, c'est que le côté, comme toute série, doit se clôturer. Le tout dernier épisode avait un côté un petit peu moins réussi, je dirais, parce que probablement pour ça, parce que tout le principe de la série, c'est un petit peu de nous mettre en garde contre tous les événements affreux qui vont arriver aux trois enfants Baudelaire. Et là, à la fois, on peut pas du coup arriver à happy end, sinon ce serait quand même problématique. Et en même temps, personne n'a envie de les voir terminer dans vraiment l'infortune la plus totale. Donc on essaie de naviguer entre les deux. Il y a en plus, alors que pendant toute la série, on avait un... Moi, je trouvais en tout cas un vrai soin apporté à l'image, au décor très fantaisiste, etc. Le tout dernier épisode, en tout cas, je crois que c'est le tout dernier épisode qui se passe sur une île déserte, était un petit peu moins soigné, j'ai eu l'impression, justement, au niveau du côté réaliste de cette univers de fantasy, et c'est un petit peu dommage. Ceci dit, j'ai pas vraiment l'impression que ça enlève énormément au plaisir qu'on a pu prendre pendant toute la série, parce que justement ça n'est que l'épisode de clôture, et l'intérêt, c'était beaucoup plus tous les différents épisodes avec les personnages que l'on retrouve, autant les grands vilains que les personnes censées être les gentilles. On a un vrai plaisir à les retrouver. Ils sont tous très bien incarnés. Et c'est plus ça, l'effet d'univers qui se construit autour de ces orphelins qui était intéressante, quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'est une grande réussite, cette série. J'ai vraiment pas grand chose à redire, à part sur ce tout dernier épisode qui était un peu moins bien, mais bon, malgré tout, à la limite, on le regarde pas, et puis on garde le meilleur souvenir jusqu'à la fin, quoi. Voilà.
Mmh. Bon, ça se clôture comme ça.
Ben oui, ça se clôture comme ça. Il faut bien qu'à un moment ça se termine. C'est le cas donc pour cette série. Alors,
deuxième choix pour aujourd'hui.
Je continue avec mon deuxième choix. Il y a une série que j'aime beaucoup, 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 qui est de retour pour sa saison 5, qui elle aussi sera sa dernière saison. Il s'agit de You're the Worst. Qui donc nous fait suivre depuis un certain temps les aventures, enfin l'amour très très turbulent de deux personnages absolument exécrables et asociaux tous les deux, et je dois dire que la série a vraiment fait un retour en force pour cette dernière saison. Alors justement, sans doute que l'effet dernière saison a joué sur la volonté de vraiment faire quelque chose de réussi. Il y a eu un petit peu plus d'attente avant que cette dernière saison arrive, et c'est probablement parce qu'il y avait une volonté de proposer une fin satisfaisante. Et jusqu'à présent, donc, on a eu droit qu'aux deux premiers épisodes de cette cinquième saison. Mais je dois dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le tout premier était particulièrement réussi et amusant à suivre, parce qu'on avait une sorte de parodie de toutes les comédies romantiques des années, je sais pas, 90... auxquels on a pu être habitué, qui était remise au goût du jour par les personnages en question. Et ce n'est qu'à la fin de l'épisode qu'on comprend un petit peu pourquoi on nous raconte toutes ces histoires-là. Je dois dire que c'était particulièrement drôle et réussi. Et le deuxième épisode qui revient cette fois-ci un petit peu plus sur l'histoire des personnages en tant que tels était lui aussi très drôle. Ça m'arrive plus aussi souvent que ça, hein, de vraiment rire de bon cœur devant une comédie. Et là ça a vraiment été le cas. Donc, retour réussi pour You're the Worst, en espérant que la suite de la saison soit aussi enthousiasmante. Vraiment, j'ai bon espoir et je serais très triste, à mon avis, de quitter cette série à la fin de cette cinquième saison.
Oui, j'ai l'impression que l'humour est un peu moins grinçant qu'avant. Enfin,
ah oui, oui.
Enfin, c'est un peu plus léger quand même, non?
Peut-être.
Parce qu'à un moment, il y avait eu cette période dépressive là. Enfin,
oui, évidemment.
Ces séparations
évidemment,
et tout.
Plus donc... exactement dans la période dépressive, mais en même temps, le côté très très cynique est quand même toujours très présent. Quoi, mm-hmm. Hein, on n'est pas non plus dans du rose sirupeux. On est dans quelque chose d'assez intéressant parce que finalement, justement, il rentre dans les codes de la comédie romantique en prenant comme principe que on va faire se marier nos deux personnages principaux, ce qui est assez étonnant et perturbant pour cette série-là, hein, qui a quand même pour générique comme phrase répétitive dans le générique on va finir par se quitter de toute façon, donc et ben, je sais pas, je trouve qu'ils arrivent assez bien à mener leur barque pour ne pas rendre ça sirupeux et pour qu'on continue quand même à adhérer à ce qu'ils sont en train de vivre pour essayer de faire de cette espèce de gros cliché de comédie romantique un truc véritable et sincère pour des personnages comme eux, quoi. Donc oui, moi j'ai trouvé que vraiment ils s'en sortaient pas mal du tout.
Voilà, deux avis positifs en
exactement
gros. Bon, ben on va déjà marquer une pause musicale, ce qui est peu habituel si tôt dans l'émission, c'est parfait.
Alors, on va s'écouter Human de Rag and Bone Man, entendu dans God Friended Me.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
La suite de Série Folie avec le thème du jour proposé par Aurore.
Alors, on va parler d'hégémonie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va parler, oui, on va parler d'idéologie dominante et de savoir si les séries nous transmettent cette idéologie dominante ou au contraire comment elles peuvent aussi lutter contre cette idéologie,
un peu dénoncer,
voire
essayer
d'imposer une autre manière de voir les choses. Voilà, mm-hmm. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
D'accord.
Alors, pourquoi est-ce que je propose ce sujet-là ? Parce que finalement, j'ai l'impression que les séries sont vraiment un objet particulièrement adapté pour ce genre de questions-là, parce que finalement, c'est un objet qui, sur plein de plans différents, peut marquer l'écart entre la norme, ce qui est donc le plus évident, le plus naturel aux yeux de tous, et puis l'écart par rapport à cette norme, quelle qu'elle soit. Déjà, une série, ça nous propose des récits. Et un récit, c'est toujours l'histoire d'un déséquilibre qui intervient à un moment dans une situation. Et tout l'enjeu du récit, c'est le retour à l'équilibre. Donc, on voit bien que déjà rien que dans l'idée de récit, on a cette nécessité de mettre en péril, quelque part, le mode de vie habituel, le petit train-train quotidien, et puis à la fois on le met en péril, donc on montre ce que ça pourrait être d'autre, mais en même temps tout l'objectif ça va être de retourner à cet équilibre perdu. Donc c'est assez enrichissant à ce niveau-là, ça c'est autant une force de subversion qu'une force de retour à l'ordre traditionnel, quoi. Alors, en plus de ça, les séries, évidemment, c'est pas seulement un récit, c'est un ensemble de récits qui vont s'enchaîner les uns les autres, et bien souvent, elles vont suivre un canevas particulier. On va avoir une forme de répétition dans la série qu'on aura moins dans d'autres formes de récits. Tout l'enjeu, justement, ça va être là aussi, pour que la série fonctionne, à la fois de s'écarter de ce canevas pour proposer quelque chose de suffisamment original pour que les gens aient envie de suivre, mais en même temps, apporter suffisamment du même pour qu'il y ait de la cohérence et que les gens se disent bah « oui, cette série-là, quand je la regarde, je reconnais ce que je suis en train de voir. » Si on nous proposait quelque chose qui n'a rien à voir d'un épisode à l'autre, autant regarder des films ou suivre des récits comme ça au hasard, quoi. Il n'y aurait pas besoin de séries. Donc déjà, à ce niveau-là, au niveau de l'objet même, on a cette tension. Et puis, il y a d'autres éléments aussi qui font que la série propose un lieu de lutte idéologique assez fort. Au niveau des téléspectateurs, déjà, on va avoir à la fois plutôt un besoin d'évasion, voire éventuellement de subversion du téléspectateur qui va vraiment avoir envie qu'on lui en mette plein la vue, qu'on le fasse voyager, qu'on lui explose la thèse avec des scénarios auxquels il n'aurait jamais pensé par lui-même. Et puis en même temps, il faut quand même lui apporter un certain confort, le rassurer. Il a besoin des deux, le téléspectateur. Donc la série, elle joue sur cette ligne très très étroite entre le besoin d'évasion et le besoin d'être rassuré, quoi. On peut penser évidemment à plein de séries comme ça qui vont nous proposer des grands aventuriers ou des héros qui mettent leur vie en danger épisode après épisode, mais en même temps, comme on sait finalement quel est le parcours habituel d'un épisode, le petit frisson qu'on peut ressentir est encadré par énormément de confort dû à l'habitude. Imagine par exemple que tu regardes un épisode de MacGyver, bon l'ancienne version, hein, pas la nouvelle évidemment, mais on a un héros comme ça qui voyage, à qui il arrive toujours des choses, il se retrouve toujours bien coincé dans un endroit dont il ne sait absolument pas sortir, que va-t-il faire? Mais en même temps, on le connaît, c'est MacGyver. On sait qu'avec deux chewing-gums et une canne à pêche, il va réussir à fabriquer une bombe. Hein. Donc,
qu'est-ce que tu as retenu, toi?
Ah oui, j'ai pas dû voir énormément d'épisodes non plus, mais oui, c'est ce que j'en ai retenu. Donc voilà, et pour le téléspectateur, il y a aussi cette tension-là dans la série. Alors au niveau plus des producteurs, des créateurs de séries, etc., on va aussi avoir la même tension parce que finalement, d'un point de vue industriel, il y a besoin d'une stratégie qui permette de réduire les coûts. En ayant un casting qui reste toujours le même, en ayant des décors qui restent les mêmes. Enfin, il y a plein d'économies d'échelle qui permettent finalement, que permet la série et qui vont être intéressants pour les producteurs de séries. Mais en même temps, si leur série, elle ressemble à n'importe quelle autre, si c'est un produit trop formaté, ça va pas marcher. Donc, il y a aussi tout un besoin de se singulariser suffisamment pour qu'on soit remarqué autant par les diffuseurs que ensuite par les téléspectateurs. Et donc, il y a tout un jeu qui se noue encore une fois autour de cette question-là. C'est particulièrement bien expliqué dans le livre des hommes tourmentés, si je ne m'abuse, dans lequel, si je me souviens bien, l'auteur explique bien que finalement l'apparition de ce qu'on a appelé finalement le troisième âge d'or des séries télévisées, toutes les nouvelles séries du genre Les Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, finalement, c'est à chaque fois le résultat d'une sorte de pari de la part de certains distributeurs qui, finalement, n'avaient pas grand-chose à perdre à offrir de l'originalité absolue parce que leur taux d'audience était tellement bas que ils pouvaient se permettre un petit peu n'importe quoi. Évidemment, c'est grâce à ça qu'ils ont été remarqués et qu'ils ont commencé à avoir du succès. Mais on voit bien, en tout cas j'ai l'impression, avec actuellement la difficulté que peut montrer HBO à renouveler son pool de séries, et AMC aussi, on voit bien qu'une fois qu'il s'agit d'une chaîne beaucoup plus installée, avec de beaucoup plus gros enjeux financiers qui doivent rentrer en ligne de compte. Tout à coup, prendre le risque de l'originalité, c'est plus aussi facile qu'au début où on n'avait rien à perdre, quoi, hein. Donc on voit bien qu'il y a aussi une stratégie industrielle derrière tout ça, entre la singularité et puis la nécessité quand même de garder une sorte de ligne qui permettent de ne pas prendre trop de risques, notamment de risques financiers. Donc pour les producteurs, là aussi, on voyage à ce niveau-là, au niveau idéologique, ne pas trop choquer peut-être, mais en même temps choquer suffisamment pour être repéré. Et puis enfin, je l'ai suffisamment dit, les séries, très souvent, elles vont nous représenter aussi un quotidien par rapport à des récits beaucoup plus courts qui vont peut-être davantage se concentrer sur une aventure, un héros qui vit une aventure en particulier. Dans les séries, puisqu'elles s'installent sur le long terme, on a vraiment plus le développement d'un univers entier dont on va représenter le quotidien avec ses différents personnages qui vont pouvoir réapparaître régulièrement au sein de cet univers. Donc, on a ça. Mais qui, enfin, oui, on a cette nécessité donc de représenter un quotidien assez différent du nôtre, quelque chose qui sorte de l'ordinaire, et en même temps, ben on s'adresse quand même à des téléspectateurs à qui on va essayer de donner le sentiment de participer à une grande une culture collective partagée. Donc il y a une forme de célébration aussi du mode de vie qui permet à la série d'exister sur le mode qu'est-ce qu'on est bien quand même dans la vie, le mode de vie actuel. Alors, j'essaie de comprendre ce que j'ai écrit. Il y a une plasticité, car il y a une ouverture vers les possibles. Le tout surpasse les parties, mais chaque partie infléchit l'avenir du tout. Oui, d'accord, je comprends mieux
c'est bien que toi tu te comprennes déjà.
Ah ben oui, donc je vais essayer d'expliquer ça. Donc l'idée, c'est que une série, elle ne se réduit pas uniquement à ses épisodes existants. La série impose une forme, puisque y a un certain univers et n'importe qui voudrait écrire un nouvel épisode, il est censé rentrer dans cet univers et en respecter les codes. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez strict dans l'écriture d'un épisode de série. Mais en même temps, étant donné que la série n'est jamais quelque chose de fermé, étant donné que plein de nouveaux épisodes sont envisageables, vont pouvoir se rajouter petit à petit, eh bien, un seul épisode un petit peu subversif, un petit peu différent, qui proposerait par exemple des personnages qui sortent de l'ordinaire, imaginons une série comme ça où on n'aurait que des personnages blancs et puis tout à coup on aurait un casting plus diversifié dans un épisode. Mais si c'est seulement dans un épisode, on peut se dire mais ça va pas changer le monde qu'a proposé la série jusque-là. Donc un nouvel épisode un petit peu différent ne change pas en somme l'espèce d'idéologie dominante que transmet la série. Mais en même temps, cette petite tentative-là, étant donné qu'elle ouvre la porte aussi à plein d'autres épisodes à venir possibles, en tout cas qui vont peut-être se dire mais il est possible de faire aussi des épisodes avec plus de diversité, etc. Eh bien, il y a une forme aussi d'ouverture dans les séries, dans l'écriture des séries, qu'il y a peut-être moins dans une forme d'écriture ou beaucoup plus, enfin où on a des récits qui sont clos sur eux-mêmes, quoi, où on a une fin à un moment. Là, la série, en n'ayant pas de fin, permet finalement de s'adapter progressivement, de suivre les évolutions des mentalités, de l'idéologie du moment, et donc de, elle va retransmettre aussi, si par exemple c'est une série qui dure sur plusieurs décennies, mais elle va pouvoir transmettre toutes les évolutions de mentalité qui ont eu lieu au cours de tout ce temps-là, quoi. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Et c'est le cas au sein d'une série en particulier, d'un univers en particulier, mais on pourrait se dire que c'est le cas aussi dans le genre série, ou en tout cas peut-être les genres sériels. Ce que je veux dire par là, c'est parfois il y a une sitcom ou un drama qui ne dure vraiment pas longtemps, qui est annulé au bout de quelques épisodes ou une seule saison, et donc on peut se dire bah, finalement c'est une série qui sert pas à grand chose. Puisque même si elle portait un discours intéressant, elle a été tellement vite arrêtée que ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Mais en même temps, elle apporte quelque chose de nouveau au genre auquel elle participe. Par exemple, la sitcom, hein, on a une nouvelle manière de voir les sitcoms, même si ça n'avait pas marché la première fois. Eh bien, ça va peut-être influencer les créateurs à venir. Et donc, il y a aussi toutes les séries potentielles qui vont pouvoir arriver après, qui peuvent être transformées par ce premier essai raté. C'est quelque chose qui a été notamment beaucoup dit à propos de la série Profit, qui a été assez vite annulée parce qu'elle avait un personnage de anti-héros qui était très très étonnant pour l'époque à laquelle la série avait été sortie. Mais en même temps, ce personnage-là a peut-être permis de préparer les esprits pour que toute une génération de anti-héros apparaisse quelques années plus tard, quoi. Donc on peut parfois, enfin moi en tout cas, parfois je regrette amèrement que certaines séries qui justement apportent un regard un petit peu différent, portent un message qui est rarement entendu, qu'elle soit si vite annulée. Mais en même temps, j'ai l'espoir que ces petites étincelles-là qui peuvent apparaître ici ou là, mais justement, au final, elles changent le genre dans son ensemble, et que le genre évolue grâce à ces petites percées, quoi. Donc voilà. Au final, qu'est-ce que je dirais ? La série, c'est un objet important pour la lutte culturelle et idéologique. Et en plus, étant donné qu'on est dans un objet audiovisuel, c'est aussi une force très importante pour la représentation au niveau de l'image, quoi, hein. Il y a une forme d'évidence réaliste, entre guillemets, de l'image, qui fait que la puissance de la série se trouve aussi en jeu à ce niveau-là. Je me suis aussi penchée sur les étapes de progressives qui permettaient soudain à une idéologie un petit peu marginal, ou bien à un point de vue marginal par rapport à l'idéologie dominante, d'apparaître petit à petit, une problématique qui apparaît petit à petit dans les séries. On aurait la première étape qui serait une invisibilisation totale de cette problématique-là. On peut penser, comme j'avais donné l'exemple tout à l'heure, pendant très très longtemps, on a vu énormément de séries avec un casting 100% blanc, sans que personne ne se pose véritablement la question, sans que ça ne fasse véritablement débat, ou en tout cas le débat n'arrivait pas à la surface du débat public, quoi, hein. Donc c'est la première étape, c'est l'invisibilisation totale de la problématique. Deuxième étape, petit à petit la problématique fait son chemin et on va avoir une présence minoritaire, mais généralement ça va être assez maltraité, et notamment assez maltraité parce que, comme justement il s'agit d'une présence minoritaire, on va avoir affaire à énormément de stéréotypes. Et puis le personnage est censé représenter à lui tout seul l'ensemble de la catégorie qu'on veut à laquelle on veut donner un peu plus de visibilité. C'est le cas pour les minorités raciales entre guillemets, mais ça peut être aussi pour plein d'autres catégories, hein. D'ailleurs on reviendra sur cette question là juste après. Donc ça, c'est la deuxième étape, encore une fois assez peu satisfaisante, mais malgré tout, par rapport au silence total, on a une petite avancée. À noter aussi que c'est souvent une période dont parfois on s'est un peu moqué, parce que c'est la période où finalement le personnage justement qui sort un petit peu de la norme habituelle va mourir dans très rapidement, ou bien dans d'atroces souffrances. Systématiquement on va voir ce personnage là mourir. Je sais bien notamment l'idée selon laquelle dès qu'on a un couple de lesbiennes à l'écran pendant très très longtemps, il fallait que une des personnes en question meure, ou bien au minimum que ça se termine très mal. J'ai personnellement pas fait de statistiques à ce niveau-là, mais apparemment ça a été relativement documenté. Ensuite, la troisième étape, c'est des séries qui véritablement elles vont problématiser le sujet. Elles prennent en main la question. Est-ce que il faut davantage représenter telle ou telle catégorie de la population? Comment les représenter? Donc elles font des discussions entre celui qui représente toujours la norme, généralement l'homme blanc hétérosexuel, et puis l'autre catégorie, que ce soit des femmes, des minorités raciales ou culturelles ou d'autres choses, on va vraiment nous représenter ces discussions-là sous forme de dialogue entre les personnages. Et puis, l'étape dans laquelle on se trouve pour en tout cas un certain nombre de problématiques actuellement, il y en a deux qui peuvent se superposer. On va avoir premièrement une représentation presque exclusive de la catégorie en question. Pendant longtemps, c'est vrai, par exemple, on a eu des castings, des séries avec des castings uniquement noirs dans les séries américaines, mais en même temps, elles ne s'adressaient qu'à un public afro-américain, justement. Et donc, c'était très différent de ce qu'on peut voir maintenant avec certaines séries HBO, FX, etc., qui proposent là aussi des séries à grande majorité avec un casting afro-américain, mais qui s'adresse là à un public beaucoup plus large, le plus divers possible. Donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est finalement dans quasiment toutes les séries, avoir une intégration qui n'est pas problématisée du tout, ou simplement c'est tel personnage se trouve être noir, homosexuel ou que sais-je, sans qu'on se pose la question et sans que ça soit mis sur le tapis. C'est une manière comme ça d'intégrer petit à petit la diversité dans les séries. Au bout d'un moment, ça paraît suffisamment normal pour ne plus en faire une problématique en tant que telle, quoi. Voilà.
Voilà. Bon, bel exposé, je dirais.
Ah oui.
On va poursuivre en musique.
On va poursuivre en musique, oui, avec The Look de Metronomy, entendu dans Sally Forever.
We'll be right back.
Nous entamons déjà la dernière partie de cette émission Série Folie avec bien le sujet du jour abordé. On va continuer sur cette piste.
Oui, on va continuer en essayant de voir quelles sont les luttes qui actuellement sont prises en compte, donc qui font l'objet d'un combat acharné dans les séries télévisées, et puis quelles sont celles éventuellement qui mériteraient de l'être également, mais qui ne le sont pas encore correctement, en tout cas.
Mm-hmm.
Voilà. Je crois, sans trop prendre de risques, pouvoir dire qu'il y a actuellement trois questions qui font l'objet véritablement d'une attention particulière dans les séries télévisées et notamment dans le modèle un petit peu que sont les séries télévisées américaines et qui correspondent aux questions qui sont plutôt au cœur du débat public et des réflexions aussi intellectuelles depuis les quelques dernières années ou décennies. C'est la prise en compte de toute la représentation des minorités raciales, toujours entre guillemets, donc toutes les personnes non blanches. Évidemment, on peut penser à toute l'évolution qu'il y a pu y avoir sur cette question-là, hein, depuis éventuellement la... En tout cas, pour nous, certainement, et à mon avis pour beaucoup de téléspectateurs, la première série américaine vraiment grand public, et quand je dis grand public, c'est-à-dire autant blanche que non blanche, qui représentait un casting entièrement afro-américain, à mon avis, c'était le Cosby Show, qui... aujourd'hui, évidemment, est digne d'énormément de critiques, hein, mais qui, j'ai essayé d'expliquer quelles pouvaient être les étapes de la prise en compte progressive de ces questions, mais c'est une série qui a quand même, me semble-t-il, eu une certaine importance à ce niveau-là, quoi. À nouveau, en suivant ces différentes étapes de la mise en lumière des luttes dans les séries, on va avoir quand même l'importance de séries comme Oz ou The Wire, qui, au niveau de la représentation d'une plus grande diversité, à mon avis, ont aussi fait leur boulot. Même si, là aussi, c'est peut-être... aujourd'hui, il y aurait plein de choses à dire sur la manière dont, finalement, on cantonne beaucoup les minorités visibles, comme on dit, dans des rôles de criminels principalement, ou ce genre de choses. Mais malgré tout, ça changeait énormément. Une série comme Oz, elle met quand même la question de la race et des relations très très tendues entre les différentes communautés au centre de ses préoccupations, quoi, hein. Donc et dans The Wire aussi, d'ailleurs, donc on pourrait dire que elles ont joué un rôle. Et puis j'ai l'impression que si on regarde la manière dont petit à petit, notamment dans les sitcoms, si on réfléchit, quels sont les sitcoms qui intègrent de manière naturelle, sans que ça pose problème ou qu'on ait l'impression simplement d'avoir eu notre quota qui était tellement exigé par les fans qu'on a dû, on a fini par céder. C'est pas si lointain que ça, hein, les séries qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Moi, j'ai pensé à Scrubs, par exemple, ou à The Office, ou Parks and Recreation, un peu après, qui, par rapport à des Friends ou I Met Your Mother, apporter quelque chose d'un, en tout cas au niveau de la diversité du casting, qui changeait un petit peu de ce à quoi on avait été habitué. Donc c'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et puis aujourd'hui, ben on va avoir des séries du genre Atlanta ou bien Insecure qui vont finalement nous mettre dans la peau de personnages de couleur sans que cela ne pose plus de problèmes que ça, quoi. Donc on a véritablement passé les différentes étapes là en un temps relativement court à ce niveau-là. Alors je dis évidemment pas que les choses sont aujourd'hui parfaitement atteintes, qu'on a réussi à normaliser totalement la représentation de la diversité à la télévision, mais on a fait des avancées, quoi. Alors, on pourrait dire faire plus ou moins le même constat au niveau de la lutte sur la question des minorités sexuelles, LGBTQ+, et je ne sais pas quoi d'autre. Donc là, vraiment, on peut aussi souligner l'importance d'un certain nombre de séries, que ce soit des séries qui ont été plutôt pionnières, qui sont plus ou moins les premières à avoir montré un baiser entre deux hommes, un baiser entre deux femmes, qui ont intégré à leur casting le premier personnage central, un personnage principal homosexuel, et puis on a aussi toutes les séries qui sont là, qui se concentrent véritablement sur une de ces différentes communautés. Alors évidemment, on peut penser à Buffy et Dawson pour ce qui est des précurseurs entre guillemets. On peut penser à une série comme Will and Grace qui justement a pu faire beaucoup aussi, et puis à des séries comme The L Word, Looking, Posé plus récemment. Ce genre de séries là bouscule un petit peu les choses. Alors évidemment, l'idée c'est que c'est pas ces séries là en tant que telles qui sont centrales, mais finalement, ben comme je l'ai dit, hein, même si elles n'ont pas énormément de succès, d'écho, etc., néanmoins, elles font un petit peu bouger les lignes qui, pour les séries qui vont venir par la suite, modifient progressivement le genre dans lequel elle s'intègre, quoi. Donc malgré tout, c'est très important, quoi, hein. Et on pourrait dire que autant les séries vraiment en pointe sur ces questions-là sont importantes, mais les séries les séries véritablement très grand public qui vont totalement normaliser la présence d'un personnage sans rentrer dans les stéréotypes, les clichés, etc., sont évidemment extrêmement importantes à ce niveau-là, quoi. Des séries qu'on présente entre guillemets comme neutres, alors qu'évidemment aucune série n'est jamais neutre, mais donc les séries neutres, ce sont les séries finalement dominantes, hein. Mais ces séries-là, quand elles commencent à intégrer ce qui a été discuté pendant un certain temps précédemment par des séries un petit peu plus en pointe sur la question des luttes, ça marque véritablement une avancée réelle des mentalités, quoi. Donc c'est assez important. Alors évidemment, j'aurais pu aussi parler de la représentation des femmes, hein. On sait que Il y a pas mal de séries qui se sont attelées à cette question-là. Par contre, au niveau des questions de représentation, plus de problèmes de classe, de relations entre les différentes classes, là, je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué, plus soumis encore à des gros stéréotypes dont il est difficile de se détacher, quoi. Hein. Le pauvre, un petit peu sale et un petit peu redneck, on l'a pas encore quitté totalement. Donc, malgré tout, il y a les combats qui, pour le moment, sont à la mode, et puis il y a ceux qui viendront peut-être un petit peu plus tard. À noter aussi que le passage du héros au anti-héros, on pourrait se dire, ben voilà, on s'est enfin débarrassé de l'idée d'une morale dominante avec l'apparition des anti-héros. En vérité, j'ai pas du tout l'impression que c'est une victoire de la contre-culture tout à coup. C'est simplement qu'on a changé de paradigme moral entre ce qui se passait avant, où la morale s'imposait un petit peu de l'extérieur à tout le monde. Et un peu justement à partir des années, fin des années 90 et puis actuellement où c'est plus un égoïsme rationnel néolibéral qui a pris le dessus et qui a fait les grandes heures des anti-héros. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est loin d'avoir fini. À noter évidemment que toute la question de l'intersectionnalité des luttes vient se rajouter à tout ça, avec les questions aussi d'âge, de représentation des différents âges, etc., etc., du handicap. Donc voilà. Il y a encore du boulot.
Oui, c'est un processus lent, long, mais voilà, on progresse malgré tout.
Ben, disons que les séries sont constamment sous le feu de cette question-là, donc elles n'arrêteront pas de provoquer, elles n'arrêteront pas de progresser. Et d'ailleurs, il faut jamais estimer que ça y est, on a réussi à atteindre une série parfaite à chaque fois, mais on a juste un nouveau statu quo qui vient s'installer et contre laquelle d'autres nouvelles séries vont pouvoir venir lutter à propos d'autres sujets. Donc c'est une lutte sans fin, quoi.
Bien, ce sera le mot de la fin.
Oui.
On va se quitter en musique.
Oui, on va se quitter en musique avec It's Raining Men des Weathers Girl, entendu dans Close et Scrubs.
Merci Aurore et à la semaine prochaine.
It's right.